Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Pour cette semaine, je vous propose de parler de New York, mais de prendre le large, pas très loin, en fait de parcourir quelques-unes des nombreuses îles qui entourent New York, en voiture, par bateau. C'est souvent très simple d'y aller, vous en connaissez sans doute certaines, pas toutes, une autre façon de découvrir la ville. Hello everyone. Je vous envoie cette lettre depuis Staten Island à New York, plus exactement depuis le ferry qui me ramène à Manhattan depuis Staten Island, qui est l'un des 5 arrondissements de la ville, hein, sans doute le moins connu. C'est d'ailleurs l'un de ses surnoms, l'arrondissement oublié. Pour y aller, c'est simple, même si ce n'est pas relié par le métro, vous prenez le ferry depuis le sud de Manhattan. Ce sont de gros ferries orange. La traversée dure environ 25 minutes, largement le temps d'enregistrer une lettre d'Amérique. Alors globalement, New York est une île, hein, une île d'ailleurs en train de couler. Vous avez peut-être vu, entendu cette information étonnante. La ville s'affaisse à cause notamment du poids des buildings et des 8,5 millions d'habitants. Particulièrement concernés, le sud de Manhattan, le Queens et Brooklyn. On parle d'un affaissement de 1 à 2 mm par an, selon des chercheurs de l'université de Rhode Island. Alors, 1 à 2 mm par an en soi, ce ne serait rien si New York était une ville au centre du pays. Mais puisque c'est au bord de l'eau et qu'en même temps le niveau de la mer monte, ça peut être un défi important à moyen et court terme. Que Manhattan soit une île, c'est connu. Ce qui est peut-être moins évident, c'est que Brooklyn et le Queens le sont également. C'est la pointe ouest de Long Island, qui est une île très étroite, qui s'avance dans l'Atlantique. C'est là que vous avez les Hamptons, avec tout au bout Montauk, que tout le monde trouve super, sauf moi. En fait, des 5 quartiers, des 5 arrondissements de New York, seul le Bronx est relié au continent. Alors, je ne vais pas parler de Manhattan, du Queens ou du Bronx ou Brooklyn, je l'ai déjà fait. Peut-être pas du Bronx d'ailleurs, je note pour plus tard, mais comme ce n'est pas une île, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, Staten Island, où j'étais aujourd'hui, est l'arrondissement le plus au sud de New York. Quand vous regardez une carte, vous avez le Bronx au nord de Manhattan, en dessous, à droite de Manhattan, le Queens et Brooklyn un peu plus en dessous, et puis au sud de cet ensemble, Staten Island. Le nord de l'île est relié donc par un ferry gratuit. Alors rien que ça, c'est à faire, hein, puisque ça vous donne une superbe vue sur la Statue de la Liberté et sur le sud de Manhattan. Si vous prenez ce ferry, installez-vous à droite du bateau pour voir la Statue de la Liberté. Sinon, on peut aussi rejoindre Staten Island en voiture depuis Brooklyn et le pont de Verrazzano. C'est de là que part le marathon de New York. Vous avez également le pont de Bayonne depuis le New Jersey ou bien le pont de Goethals, toujours pour la liaison avec le New Jersey. Oui, comme Raymond Goethals pour les Belges qui nous écoutent ou les supporters de l'Olympique de Marseille ou des Girondins de Bordeaux. Une anecdote concernant le pont de Bayonne que je viens de citer, une anecdote liée à l'une des séries les plus connues de ces dernières années, Game of Thrones. Le créateur de la série, l'écrivain George Martin, a passé son enfance à Bayonne, dans le New Jersey, donc issu d'une famille pauvre, un père docker. Il raconte en fait qu'il voyait de l'autre côté de la baie de New York, Staten Island, et notamment les lumières de Staten Island, et c'est en se demandant à quoi ça pouvait ressembler, parce que son univers se résumait à 5 blocs, 5 rues, et bien il se demandait à quoi ça pouvait ressembler. C'est ainsi qu'il aurait imaginé la cité de Westeros, que les amateurs de la série connaissent bien. Alors, une fois que vous êtes à Staten Island, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors déjà, c'est mieux d'avoir une voiture, même s'il y a des bus et une ligne de métro, c'est plus facile pour découvrir, ou alors de louer des vélos. C'est un endroit très vert, beaucoup de parcs, des plages aussi. Il y a pas mal de musées, notamment le musée historique de Richmond. Alors pendant longtemps d'ailleurs, Staten Island s'appelait Richmond. Le nom n'a changé qu'en 1975. Et ce sont en fait des colons néerlandais qui se sont installés là en premier. Ils ont baptisé l'île Staten Island, littéralement l'île des États, en référence au parlement néerlandais, le Staten General. Et Staten Island a été ensuite anglicisé et rattaché à la ville de New York en 1898. Parmi les choses à voir, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous avez le Snug Harbor qui signifie le port tranquille, le port de plaisance. C'est l'un des hauts lieux de l'île. Un immense parc, il y a plusieurs bâtiments historiques du 19e siècle, de beaux bâtiments à colonnades, des jardins à thème également. Et puis, à savoir, hein, quand vous débarquez du ferry, il y a un outlet, des magasins d'usine avec des prix très intéressants. Ce sont les magasins d'usine les plus proches quand vous êtes à New York. Puis surtout, vous n'avez pas besoin de voiture puisque c'est tout près du port. Vous avez aussi le zoo de Staten Island qui est réputé, même s'il est moins réputé que celui du Bronx. Alors si vous avez une voiture, donc ça permet de se rendre compte aussi de l'aspect très aéré de l'île, du côté diversifié, de voir de très belles maisons aussi, avec des drapeaux plantés dans les jardins. À noter que Staten Island est le seul arrondissement de New York à majorité républicaine. En 2020, Donald Trump a recueilli 57% des suffrages, alors que les autres arrondissements ont voté en très grande majorité démocrate. Si vous êtes intrigué par cette île, il y a un film qui est sorti il y a 3 ou 4 ans et qui s'appelle The King of Staten Island. C'est l'histoire d'un jeune homme un peu paumé qui aimerait monter un restaurant-salon de tatouage. Alors, c'est un concept, hein. Et le film, globalement, donne un aperçu assez intéressant de la vie sur Staten Island. Et à un moment, il y a une discussion entre adolescents, plutôt entre jeunes adultes, et une jeune fille dit: j'adore Staten Island, mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas mieux considéré. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas l'équivalent de Brooklyn, alors qu'on a plein de choses pour nous, comme la vue, la nature, etc. Et c'est un peu ce qu'on se dit, ce qu'on ressent quand on y va, parce que on se dit, en fait, ça pourrait être beaucoup mieux, notamment les alentours du port, où vous avez une vue splendide sur Manhattan, donc a priori c'est très recherché, mais les bâtiments, les lieux sont quasi abandonnés. Quand vous prenez le bateau pour Staten Island, vous passez devant Liberty Island et Ellis Island. Alors Liberty Island, c'est simple, hein, c'est cet îlot de 6 hectares sur lequel est posée la Statue de la Liberté. On l'appelait autrefois, l'île aux huîtres. Ça a été un lieu de quarantaine pour les malades de la variole, malades de la peste également. Et puis c'est devenu un fort avec une présence militaire. Aujourd'hui, l'unique intérêt, quasiment, bien sûr, c'est de voir la Statue de la Liberté, le symbole des États-Unis, la Tour Eiffel américaine. Hein. Gustave Eiffel a d'ailleurs été ingénieur sur la construction de ce monument orchestré par Bartholdi. La Statue de la Liberté sur son piédestal en granit, Miss Liberty drapée dans une toge, coiffée d'un diadème à 7 branches, vous savez, brandissant une torche dans la main gauche et une tablette avec la date de la déclaration d'indépendance dans la main droite, le 4 juillet 1776. Avec le ferry, vous pouvez descendre sur Liberty Island, faire une courte balade et voir la statue en étant à ses pieds. Et ce qui est encore mieux, mais ça, faut avoir les moyens et faut avoir l'occasion, c'est de la survoler en hélicoptère si vous avez la chance de pouvoir le faire. La première fois qu'on voit la statue, d'ailleurs, on est impressionné, c'est évident, mais elle paraît un peu plus petite que ce qu'on imaginait, ce qu'on a pu voir à la télévision ou au cinéma, parce qu'elle fait 46 mètres, mais le socle fait également 46 mètres, et c'est ce qu'on ne mesure pas quand on voit les images. L'intérieur se visite aussi, hein, on peut aller jusqu'à la couronne, alors il faut monter, grimper les escaliers, mais il faut réserver des mois à l'avance, et à chaque fois que j'ai regardé, en fait, parce que je voulais le faire ou faire des cadeaux à des personnes qui venaient me rendre visite. Et c'est quasiment impossible d'avoir des places. J'ai jamais vu des places disponibles. C'est pas encore sûr, mais je vais peut-être y aller en reportage bientôt. Je vous raconterai. Liberty Island, l'arrêt n'est pas obligatoire puisque vous voyez mieux la statue à distance. En revanche, il faut, si vous êtes dans le coin, absolument aller voir l'île suivante, en l'occurrence Ellis Island. C'est par ici que sont arrivés des millions de candidats à l'immigration. C'est par cette petite île que c'est construit, que se sont construits une partie des États-Unis. Hein. Avant 1892, l'accueil des immigrés se faisait plus loin, à Manhattan, à Fort Clinton, qui existe toujours d'ailleurs, à Battery Park, c'est là où vous prenez les billets pour le ferry. Les New-Yorkais déjà installés n'étaient pas contents parce que ça engendrait des problèmes, notamment des problèmes de criminalité. Ellis Island permettant d'isoler en fait les migrants avant qu'ils aient le feu vert, ça bloquait aussi toute tentative d'évasion pour celles et ceux qui n'avaient pas été autorisés à entrer sur le territoire américain. Les candidatures étaient en grande majorité acceptées. On était en pleine révolution industrielle, donc le pays avait besoin de main-d'œuvre, mais environ 2% de ces candidatures étaient refusées et renvoyées dans leur pays d'origine pour des problèmes de santé ou pour un passé criminel. Ellis Island a d'ailleurs été surnommé The Island of Tears, l'île des pleurs, une référence à ces personnes qui devaient rentrer chez elles après un long voyage dans lequel elles avaient mis tous leurs espoirs et souvent tout leur argent. Ellis Island en référence à Samuel Ellis, un colon qui avait acheté ce morceau de terre dans les années 1770 avant son rachat par l'État de New York. Du 1er janvier 1892 à novembre 1954, 12 millions de demandes y ont été étudiées. Aujourd'hui, c'est essentiellement un musée, même si le terme de musée ne colle pas forcément, mais en tout cas, c'est un musée de l'histoire de l'immigration et il est très bien conçu, d'ailleurs très bien organisé. C'est assez émouvant comme visite. Vous avez d'abord ce grand hall qui était le hall d'entrée pour les immigrants. Vous imaginez très facilement à quoi ça pouvait ressembler, le chaos que ça pouvait être. Et puis ensuite, vous passez dans plusieurs pièces et vous voyez le parcours qu'ils devaient suivre, des examens médicaux, psychologiques, un questionnaire, souvent il fallait des traducteurs puisque c'est des gens qui ne parlaient pas anglais, et puis vous pouvez voir des lettres d'époque, des valises, des photos, plein d'objets, l'audio guide également vaut le coup. En tout cas, c'est une visite qui est vraiment à faire si vous êtes dans le coin. On continue à sauter d'île en île avec cette fois Governor Island qui est toujours au sud de Manhattan, l'île des gouverneurs, qui est une île de 70 hectares. Ça a été une base de l'armée américaine et des gardes-côtes. À l'époque de la domination anglaise, elle était réservée au gouverneur de la province, d'où son nom. Pendant longtemps, elle était ouverte au public seulement l'été. Et depuis, c'est récent, depuis 2021, on peut y aller tout au long de l'année. Là encore, c'est une bonne idée de balade. Hein. Quand vous débarquez, il y a deux cafés-restaurants. Alors, vous pouvez faire le tour de l'île. Hein. La balade n'est pas très longue. Vous allez voir pas mal de bâtiments abandonnés, dont un théâtre, une chapelle, d'anciens bâtiments militaires. Le nord est assez sauvage. C'est amusant de voir ça. Quand on a un petit peu marre du tumulte de New York aussi, ça fait respirer. Et puis, ça devient de plus en plus tendance. Il y a un spa de luxe. On peut faire du camping haut de gamme. Il y a des soirées assez courues. L'intérêt aussi est bien évidemment la vue sur Manhattan. C'est aussi l'intérêt d'une autre île dont je voulais à présent vous parler, qui s'appelle Roosevelt Island. Là, on est sur East River, donc plus au nord. Pour vous la situer, elle est en gros à l'est de Central Park. Alors, elle a tout pour plaire, mais je trouve qu'elle est totalement inexploitée. C'est une île étroite, elle fait moins de 250 mètres de large. Et en longueur, elle fait 3 km de longueur. Il y avait un pénitencier, surtout elle était connue pour abriter des hôpitaux, un asile. J'ai lu une très bonne bande dessinée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Nellie Bly et c'est l'histoire vraie d'une pionnière du journalisme d'investigation qui s'était fait passer pour folle pour enquêter sur l'asile psychiatrique pour femmes de Blackwell où les patientes étaient maltraitées et l'asile était donc sur Roosevelt Island. Dans les années 1970, on a pas mal construit d'immeubles résidentiels et il y a tout effectivement pour que ce soit un super endroit, mais ça reste plutôt désert, assez triste je trouve. Il y a quasiment pas de magasins, mais ça fait une balade pas désagréable, hein, d'autant que c'est très facile d'accès puisque vous pouvez y aller en métro. Encore mieux, c'est le même prix que le métro, d'ailleurs en téléphérique, un téléphérique français d'ailleurs de l'entreprise Poma. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un inventaire à la Prévert de toutes les îles de la région de New York parce qu'il y en a plus de 30, 35 je crois, et certaines sont plus des bouts de cailloux qu'autre chose, mais Il y en a quand même beaucoup où on peut se rendre et on n'imagine pas forcément New York avec toutes ces petites îles. Prenez par exemple City Island qui dépend du Bronx. Là encore, on peut y aller en transport en commun, en métro puis bus. Alors, je connais pas, je suis jamais allé, mais il paraît qu'on peut y manger d'excellents fruits de mer et que on est très déconnecté par rapport à New York. L'activité a longtemps été axée sur la pêche et la construction navale. Beaucoup de barges du débarquement de Normandie ont été construites ici et c'est aujourd'hui une île résidentielle avec un peu moins de 5000 habitants, donc une petite île. Deux noms pour terminer que vous ne connaissez peut-être pas, Randall et Ward Island. Ce sont deux îles conjointes au niveau de East Harlem. Alors, elles étaient autrefois séparées, mais le canal qui les séparait a été comblé dans les années 60. Pendant longtemps se tenait le festival de musique qui est assez célèbre ici, assez connu, le bal des, qu'on appelle le festival du bal des gouverneurs. Il était cette année à Flushing Meadows, donc il a déménagé. L'île a également été utilisée par le passé pour des hôpitaux psychiatriques, des cimetières. Il y a toujours un hôpital psychiatrique d'ailleurs, il y a également un centre d'accueil pour enfants et adolescents. Vous voyez, toutes ces îles proches de New York ont souvent servi soit de postes militaires avancés, notamment lors de la guerre contre les Anglais, soit d'hôpitaux ou de prisons. C'est d'ailleurs toujours le cas d'une dernière île que je voulais quand même vous citer, celle de Rikers Island, un nom que l'on a beaucoup entendu lors de l'affaire DSK, puisque c'est ici que Dominique Strauss-Kahn a été incarcéré. Elle est située entre le Bronx et le Queens, et elle abrite la plus grande prison de la ville et la deuxième plus importante des États-Unis, je crois. Alors, c'est impossible d'y aller comme ça, à moins d'aller visiter un proche en prison. Voilà pour cette lettre d'Amérique consacrée aux îles de New York. Je vous parlais tout à l'heure du festival de musique du bal des gouverneurs. Eh bien, c'était le week-end dernier et j'ai regardé le programme et il y avait en tête d'affiche la chanteuse Lizzo. C'est donc avec elle que nous allons nous quitter. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye. D'écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur vos plateformes habituelles.